premier épître de Jean, chapitre 3, verset 7. Il est écrit, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Amen. Alors, en me voyant aujourd'hui sur cette estrade, une Bible dans la main, peut-être que vous penserez que je suis né dans la foi chrétienne et que j'ai été enseigné dans les Saintes Écritures. Eh bien, détrompez-vous, parce qu'à la maison, lorsque j'étais enfant, eh bien, je n'ai pas eu le privilège d'avoir une maman qui m'invite à la rejoindre pour consulter ce que Dieu déclare dans sa parole. Non, à la maison, on ne lisait pas dans la Bible, on lisait dans la boule de cristal. En effet, ma mère était voyante, elle était devineresse, elle était guérisseuse. Et j'ai grandi dans cet univers de l'occultisme, et je me souviens souvent, ma maman m'invitait à venir la rejoindre dans la salle à manger, et puis là, elle jetait les cartes sur la table et elle commençait à m'annoncer mon avenir. Et comme elle m'aimait beaucoup, alors elle voyait des choses extraordinaires concernant mon futur. Mais pour être honnête avec vous, je dois avouer que jamais elle n'a vu dans les cartes, dans le tarot, qu'un jour je serais prédicateur de l'Évangile. Savez-vous pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les voies de Dieu ne sont pas les voies du diable. Le diable, il a un plan, c'est vrai, un plan d'aveuglement, un plan d'asservissement, d'enfermement, d'esclavage. Mais Jésus, il a un plan de délivrance. Il a un programme pour nous, il a un dessein pour nous. Jésus a même déclaré au sujet du diable le voleur, il l'appelle le voleur. Il ne vient que pour voler, égorger, détruire. Mais Jésus ajoute, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie éternelle. C'est pourquoi je prêche l'Évangile. C'est pourquoi je prie pour tous ceux qui sont esclaves du diable. C'est pourquoi je crois qu'au nom de Jésus, les malédictions sont brisées, les sortilèges sont neutralisés, parce que Jésus vient pour nous donner une vie nouvelle. Il vient pour nous apporter la liberté, nous apporter la véritable délivrance. Mais avant de connaître cette délivrance, eh bien, je suis passé par un chemin de souffrance, un chemin de douleur dont j'aimerais vous parler, m'entretenir avec vous quelques instants. Eh bien, je me suis posé très vite des questions. Vous savez, ces questions que l'on se pose à l'âge de l'adolescence, les grandes questions de la philosophie moderne, à savoir, eh bien, qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Et puis, j'en avais bien d'autres. Je me disais, y a-t-il un Dieu ? Y a-t-il un diable ? Y a-t-il un ciel ? Y a-t-il un enfer quelque part ? Quelle est la véritable réponse ? Est-ce Bouddha, Jésus, Mahomet ? Vers quelle église faut-il se tourner ? J'avais une véritable quête spirituelle. Je voulais savoir pourquoi j'existais, pourquoi j'étais sur la terre. Alors j'ai commencé à me tourner vers les pratiques du paranormal, les pratiques du nouvel âge. Je voulais savoir pourquoi j'existais sur la terre. En fait, je vivais dans une région qui était à cette époque extrêmement frappée par la crise économique. Mon père ne trouvait plus de travail, mon frère aîné non plus. C'était de terribles tensions à la maison, des tensions parfois même très violentes entre mon père et mon frère aîné. Et puis la situation entre mes parents s'était vraiment détériorée. Et la menace du divorce retentissait de plus en plus à l'intérieur de notre maison. Alors je souffrais d'un profond mal de vivre et je me défoulais à l'extérieur dans des salles de sport. J'ai commencé à m'initier aux arts martiaux et comme j'avais un potentiel physique non négligeable, j'avais été sport-études football, je m'étais tourné ensuite vers le karaté, eh bien, j'ai commencé à me lancer dans les arts martiaux jusqu'à atteindre la ceinture noire et devenir même professeur de karaté. Et malheureusement, je ne me servais pas des arts martiaux seulement dans les salles, dans les dojos, dans les salles de sport, mais je m'en servais aussi dans les discothèques, dans les boîtes de nuit, à la sortie des boîtes, lorsque je me battais avec des gars. Il y avait vraiment un profond mal de vivre en moi. La maison, c'était eh bien, le mal de vivre, à l'extérieur aussi. Et toutes ces choses me tourmentaient énormément. Alors, je voulais trouver des réponses. Il fallait que je sache pourquoi j'étais sur la terre. C'était là une quête spirituelle extrêmement importante. Alors, comme il n'y avait pas d'argent qui rentrait dans le foyer, ma mère a décidé de se mettre à son compte. Et puis, elle a commencé à ouvrir son cabinet de consultation et la clientèle, très rapidement, a été nombreuse. La salle d'attente était trop petite. Les gens venaient et ils étaient prêts à tout donner pour une dose d'enchantement. Les billets glissaient sur la table. Et puis, il y avait des malades condamnés par la médecine qui attendaient des passes magnétiques de ma mère, la guérison. Des gens qui réclamaient de ma mère des sortilèges pour que elles puissent changer le cours des événements de leur vie. Alors c'est vrai, l'argent a rentré, il a rentré de plus en plus, les poches se remplissaient. Mais étrangement, eh bien, l'argent qui rentrait dans une poche, eh bien, ressortait par l'autre. C'est comme si nous avions le sentiment que nos finances étaient comme frappées par la malédiction. Nous n'arrivions pas à sortir la tête de l'eau. Le frigidaire était dramatiquement vide, le porte-monnaie avec. Nous n'arrivions pas eh bien, à refaire surface économiquement et le diable nous a tenus dans cette dépendance économique pour nous pousser toujours plus dans les pratiques de l'occultisme afin de nous détruire. Alors c'était la course à de nouvelles pratiques. Il fallait que ma mère ajoute de plus en plus de pratiques pour augmenter sa clientèle. Et puis un jour, une dame décide de l'inviter dans un séminaire un soir sur le spiritisme. Alors ma mère y est allée, moi j'attendais à la maison, j'avais 17 ans et demi, et je commençais à m'initier aux pratiques de l'occultisme, et je me rapprochais de plus en plus de ma mère parce que je commençais à entrevoir eh bien, l'occultisme comme étant une forme de carrière professionnelle. Alors j'étais là à la maison, je faisais les 400 pas dans la salle à manger, et puis j'attendais que ma mère rentre pour savoir si le spiritisme, ça marchait. Très tard, ma mère est rentrée, alors je lui dis « Maman, alors ?» Elle me dit « Ça marche !» Et elle avait avec elle un guéridon en bois, un petit tabouret, puis avec une simple méthode, avec un alphabet, elle a commencé à entrer en contact avec le monde de l'au-delà. Et puis le tabouret basculait tout seul, simplement avec le contact de ses mains. Et au nombre de coups que frappait le tabouret, alors ma mère construisait les phrases et puis elle recevait eh bien, des réponses. Elle recevait des paroles du monde invisible. Alors j'ai pensé, enfin, je vais savoir. Puisque le monde physique, le monde matériel dans lequel je suis ne répond pas à mes quêtes sur le plan spirituel, alors le monde invisible, lui, va y répondre. Il faut que j'interroge ceux qui sont dans l'au-delà parce qu'eux détiennent le secret. Ils me diront quel est le véritable Dieu, quelle est la véritable religion, quelle est la philosophie à suivre, vers qui je dois me tourner. Alors la fièvre du spiritisme s'est emparée non seulement de moi, mais aussi de toute la famille pendant des heures. Des nuits entières, je mettais mes mains sur le guéridon, sur le tabouret, et puis j'interrogeais ce monde invisible pour savoir si Jésus était Dieu, pour savoir s'il fallait suivre Mahomet, Bouddha. Je voulais qu'il me réponde. Mais si je peux comparer le spiritisme, je le comparerais à une forme de labyrinthe dans lequel vous entrez par une porte et vous commencez à évoluer dans un corridor et il faut emprunter un autre corridor pour essayer de trouver la réponse, pour essayer d'en trouver la sortie. Mais finalement, vous avancez toujours plus, de plus en plus loin, et vous finissez par vous perdre et vous trouver dans une forme de prison de laquelle vous ne pouvez plus sortir. C'était une forme de spirale infernale, un entonnoir qui m'entraînait toujours plus et toujours plus vers le bas. Je n'ai pas trouvé la réponse. Je n'ai pas trouvé cette réponse que j'attendais. Mais la fièvre étant là, nous étions tenus, nous étions liés. C'était une drogue. C'était une forme de drogue psychique, une drogue paranormale. Et il fallait toujours plus pratiquer. Et des choses ont commencé à se produire, des phénomènes étranges. Le matin, on a commencé à découvrir que les meubles, pendant la nuit, s'étaient déplacés tout seuls. Des tables en chêne, des armoires. Et puis, des phénomènes ont commencé à se produire autour de moi lorsque je marchais sur des chemins où il y avait des pierres, des cailloux. Eh bien, j'ai été le témoin d'un phénomène de poltergeist, c'est-à-dire que les objets décollaient tout seuls dans l'espace et frappaient les gens autour de moi. J'ai commencé à vouloir explorer les pratiques du chamanisme et le pouvoir sur la lumière. Et je lisais toutes sortes de livres sur ces pratiques occultes. Je passais des heures devant des lumières, devant des télévisions. J'essayais d'en absorber l'énergie. J'éteignais la télévision à distance, je la rallumais. J'éteignais des lampadaires dans la rue, je faisais exploser les ampoules. Je voulais développer les pouvoirs, ces énergies qui sont, je le pensais, en nous. Des énergies que je cherchais à découvrir. Puisque le monde extérieur, le monde religieux autour de moi ne répondait pas à toutes ces questions, j'ai pensé que la réponse se trouvait en moi et qu'il fallait explorer les pouvoirs du subconscient, peut-être des énergies que l'homme ignore mais qu'il faut explorer et développer. Et puis, les clients venaient et un matin, des dames ont frappé à la porte, ma mère a ouvert, les dames l'ont suivi dans le couloir quand tout à coup on a entendu des cris dans la maison et j'ai vu ces dames partir en courant dans la rue. Ma mère a essayé de les rattraper pour savoir ce qui se passait. Et en fait, ces dames venaient de prendre des paires de claques dans la figure alors qu'il n'y avait personne dans le couloir. Et les gens commençaient à répandre la rumeur dans la ville où nous habitions qu'à cet endroit même, eh bien, il y avait une maison hantée. Et c'est ainsi qu'on a commencé à dire de moi que j'étais le fils de la sorcière. Les phénomènes se sont multipliés. Je commençais à sentir des souffles, des mains invisibles qui me touchaient. Et puis l'enfer. L'enfer est venu dans ma chambre la nuit parce que j'ai connu des attouchements, des mains invisibles qui se posaient sur mon corps, qui me frappaient le corps, qui me frappaient la figure. Et j'ai commencé à perdre le contrôle. Je perdais le contrôle de mon corps qui décollait en lévitation au-dessus de mon lit. Je commençais à connaître le dédoublement de personnalité. C'est un peu comme si vous vous asseyez en face d'une télévision, vous voulez vous brancher sur un canal, mais à l'écran, vous avez une multitude de chaînes qui passent en même temps. C'était l'enfer. Chaque nuit, les mêmes terreurs, les mêmes agressions, et j'ai commencé à basculer progressivement dans les frayeurs, la psychose, proche même de la folie. Je me souviens, un matin, j'étais dans la salle à manger, cela faisait des mois que je souffrais d'insomnie, et puis là, dans cet endroit, je regardais ma petite sœur, elle avait 6 ans à l'époque, et le matin, quand Cathy se levait, ce n'était pas pour jouer à la poupée, mais pour faire du spiritisme. Et je la regardais, les mains sur le tabouret. Il était très tôt ce matin-là. Et puis, j'avais le dos appuyé sur le mur de la salle à manger. Je pensais à mon destin, je pensais au sens de notre vie. Et j'essayais d'intégrer toutes ces souffrances en moi. Je me disais, grand-mère était voyante, maman est voyante. Cathy sera voyante, moi je serai voyant, je serai magicien. C'est vrai que la nuit, je vis l'horreur, mais nous essayons de faire du bien aux gens qui viennent dans notre cabinet de consultation. Certainement qu'il y a un grand esprit dans l'au-delà qui a décidé qu'un jour la famille Alexandre serait vouée de génération en génération aux pratiques occultes. Et j'essayais de me convaincre que c'était ma destinée. Et je regardais Cathy. Quand tout à coup, alors que Cathy touchait le tabouret simplement avec le bout de son doigt, j'ai vu le tabouret basculer sur 2 pattes et rebondir une autre fois. Et ma petite sœur, se tournant vers moi, a commencé à rire, rire aux éclats. Moi, j'étais terrorisé face à ce que je voyais. Et j'ai assisté à ce phénomène surnaturel. Le tabouret marchait sur 2 pattes, simplement avec le contact du doigt de ma petite sœur. Et il a commencé à traverser la salle à manger. Alors j'ai poussé un hurlement. J'ai dit, « Maman, maman, viens voir !» Ma mère a quitté la cuisine. Elle est arrivée. Elle était fascinée. Mais moi, j'étais horrifié. J'étais horrifié parce que la nuit, je vivais l'horreur. La nuit, je vivais cet enfer. Et tout à coup, c'est comme si un voile venait se déchirer devant mes yeux. Tout à coup, je venais de réaliser que cette petite fille de 6 ans, peut-être allait-elle vivre l'enfer que je vivais. Alors, je me suis interposé. J'ai commencé à me placer au centre de la salle à manger. J'ai commencé à frapper le vide, à mettre des coups de pied, à mettre des coups de poing, à injurier ce monde invisible. Quand tout à coup, des souffles sont entrés par ma bouche, ont visité mes entrailles. Et c'était comme un feu déchirant. Alors je me suis tu, je me suis caché, je me suis enfui dans un coin de la maison. Je n'osais même plus parler parce que ce que je venais de vivre était terrible. Je ne savais toujours pas à ce moment-là si Dieu existait, mais j'ai su ce jour-là que le diable existe. Ma mère a essayé de me faire parler, je n'osais même plus dire un seul mot, de peur que tout à nouveau ces puissances pénètrent encore par ma bouche et viennent m'agresser comme elles l'avaient fait. Et la nuit qui a suivi, ça n'a pas manqué. Nous avons été réveillés par des cris, par des hurlements. Nous sommes arrivés dans la chambre de ma petite sœur. Elle était assise sur son lit, les yeux révulsés. Et elle disait, « Maman, maman, regarde, il y a des morts couchés sur mon lit. Je dors dans un cimetière. » Elle était complètement traumatisée, ravagée par l'occultisme. J'ai dit, « Maman, maman, il faut qu'on arrête. Nous avons perdu le contrôle. Ça va nous détruire. » Ma mère ne savait plus quoi faire. Je suis allé me recoucher. Je n'ai pas trouvé le sommeil. Impossible de dormir. C'était dormir 10 minutes, une demi-heure. C'était pratiquement devenu impossible pour moi. J'étais dans un état de délabrement moral, physique, psychologique, spirituel. Et puis vers 6 heures du matin, là, une voix a résonné dans ma chambre. Et cette voix dit, Franck, il est l'heure. Lève-toi. Alors je me suis levé, j'ai obéi à cette voix. Elle me dit, va vers la fenêtre. Alors j'obéis à cette voix, ouvre la fenêtre, monte sur le bord de la fenêtre. Et c'est ce que je fais. Mes parents dorment dans la chambre à côté. Et la voix me dit, Franck, tu as besoin de dormir. C'est tout simple. Tu te laisses glisser dans le vide et là, tu vas dormir. Et je regardais le macadam plusieurs mètres plus bas et je disais, enfin, je vais pouvoir dormir. Et prêt à me jeter dans le vide, tout à coup, j'entends une voix qui dit, Franck, connais-tu l'enfer? Je dis, non. Franck, si tu meurs, ne vas-tu pas emporter avec toi ton enfer? Et l'autre voix disait, laisse-toi glisser, tu as besoin de dormir. Et cette autre voix dit enfin, Franck, si tu meurs, ne vas-tu pas emporter avec toi ton enfer? Et tout à coup, c'est comme si quelqu'un venait de déchirer le voile de l'occultisme. J'ai fermé la fenêtre. Je me suis jeté à terre dans ma chambre. J'ai crié, j'ai hurlé de toutes mes forces. J'ai crié vers le ciel et j'ai dit, Dieu, je ne sais pas qui tu es, je ne sais si tu es Bouddha, Jésus ou Mahomet, mais je m'adresse à toi qui as créé l'univers, si tu existes quelque part, je t'en supplie, sauve-moi. Mes parents sont entrés dans ma chambre, ils m'ont trouvé à genoux en transe, trempé de sueur. J'ai dit, papa, papa, j'ai envie de mourir, j'entends des voix qui me commandent de me détruire. Mes parents ne savaient plus quoi faire. Je me suis habillé rapidement et je suis parti dans la rue en courant. J'ai erré pendant plusieurs heures. De 6 heures... à 9h du matin. Et vers 9h du matin, je croise des jeunes gens qui distribuent des traités concernant la foi chrétienne. Mais à 9h du matin, pour moi, c'était une overdose de spiritualité. J'ai mis ça par terre. Et j'ai continué à marcher. Une demi-heure plus tard, je croise encore ce groupe de jeunes gens. Alors je change le trottoir pour ne pas avoir affaire à eux. Et puis une demi-heure après, quelqu'un m'attrape par le blouson, me tend un traité. Il me dit, prends-le, c'est le dernier qui nous reste. Alors je le prends et je me sauve. J'avais trop peur des sectes. Alors je regarde ce traité, il est question d'un chef de gang qui s'appelle Nicky Cruz, qui a rencontré Jésus et sa vie a changé. Je dis, comment un chef de gang dont la vie change par la religion, par Jésus, ça ne tient pas la route, c'est une fable, c'est une farce. Alors j'ai mis ça par terre. Et puis je suis en train de marcher, je fais une quarantaine de mètres. Et alors je suis en train de marcher sur la place publique, dans la rue même. Là, je percute un être invisible dont les pieds touchent la terre et la tête touche les cieux. Et pour la première fois de ma vie, pas d'angoisse, pas de frayeur, pas de psychose, mais une paix profonde qui m'envahit. Et la prière que j'envoyais vers Dieu à 6 heures du matin qui revient tout à coup à la vitesse d'un boomerang dans mon esprit. Et elle porte un message. Dieu a rendez-vous avec ta vie. C'est comme une flèche qui me traverse le cœur. Alors je fais une demi-tour. Je vais voir ce chrétien. C'était un homme d'origine malgache. Il tenait une Bible avec une couverture en cuir noir sous le bras et il avait un sourire béat en forme de banane. Alors je pense en moi-même, je vais lui faire perdre le sourire, je vais simplement lui décliner mon curriculum vitae spirituel. En face de lui, du haut de mon orgueil, je lui dis, voilà, je m'appelle Franck Alexandre, je suis le fils de la sorcière. Ma mère, elle est voyante, guérisseuse, devineresse, radiesthésiste. Je suis spirite et parapsychologue, ceinture noire de karaté. Je me bats dans les discothèques, j'organise des règlements de compte dans la cité. Mon frère consomme de la drogue, de l'alcool. Mes parents veulent divorcer. Le chien est possédé, la maison est hantée de la cave au grenier. Vous avez une solution pour des gens comme nous, vous ? Et là, il me dit, oui, j'ai la solution. C'est Jésus. Hallelujah ! Je dis, Jésus, le juif de Jérusalem qui avait une grande barbe et qui marchait à pieds nus. Mais je dis, mais monsieur, on ne vous a pas mis au courant. Alors il me dit, mais quoi ? Mais écoute, je suis allé à l'école, j'ai eu un cours de religion. On m'a enseigné que Jésus était le fondateur du christianisme. Mais on ne t'a pas dit comment il a fini sa vie, ce Jésus-là. Tu sais qu'il est mort sur une croix. Jésus, il est out, il est mort. Et il me dit, peut-être que dans ton cours de religion, on t'a enseigné que Jésus est mort. Et soudainement, il brandit sa Bible et me dit, mais dans ma Bible, il est marqué que Jésus est ressuscité. Alléluia! En gros, pour simplifier, je lui dis, moi je suis dingue, mais vous êtes plus dingue que moi. Vous êtes en train de me dire que Jésus, il est vivant, il est là. Alors où il est ton Jésus que je le vois? Il me dit, viens ce soir, tu vas le rencontrer. Je lui dis, donne-moi l'adresse. Il me donne l'adresse de l'église. Alors j'y suis allé, je suis entré dans l'église évangélique. Et quand j'ai mis les pieds dans cette église, mes amis, j'ai senti sa présence. Mon corps a commencé à trembler. Des choses se passaient en moi. Je commençais à perdre le contrôle. Il y avait comme des entités qui se bousculaient à l'intérieur de moi-même. Et j'ai compris soudainement ce qui était en train de se passer. J'ai dit, ah démon, ah diable, vous êtes en moi, vous m'habitez, vous me tenez. Et vous venez de comprendre que ce Jésus qui est ici, il est plus fort que vous. Alléluia! Alors le pasteur prêchait l'évangile, il annonçait que Jésus est venu sur la terre, qu'il est mort sur la croix pour nos péchés, qu'il est ressuscité le troisième jour et qu'il a le pouvoir de transformer notre vie. Il disait Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus revient bientôt et il est toujours le même, alléluia. Et il a lancé un appel, alors je me suis avancé et quand il m'a vu secoué par la puissance des ténèbres, il m'a dit toi tu trafiques dans l'occultisme, j'ai dit oui monsieur c'est le métier de la maison. Et il m'a imposé les mains, alléluia. Et là, je me suis écrasé sur ma chaise et j'ai fait un voyage au Niagara céleste. J'ai rencontré le Seigneur Jésus. J'ai dit au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, écoute-moi. J'ai été à 200% à 100% pour le diable. Je ne ferai pas moins pour toi si tu me délivres. Je te servirai à 200%. Alléluia. Dieu soit béni. J'étais là écrasé sur ma chaise, mon esprit s'est ouvert et j'étais envahi d'une vision extraordinaire. J'ai vu un trône de gloire apparaître devant moi, la terre et les cieux ont tremblé. Ce trône était pur, il était glorieux et j'ai vu un fleuve plus pur que le cristal jaillir de ce trône et venir dans ma direction. Et j'ai vu ce fleuve arriver, c'était bien plus puissant que l'explosion nucléaire. Et j'ai vu ce fleuve, il m'a percuté de plein fouet. Il m'a traversé le corps, l'âme, l'esprit, toutes les cellules. J'entendais au plus profond de moi des hurlements, des cris. C'était le cri des démons qui battaient retraite. J'entendais le bruit de chaînes que l'on arrache, le bruit de portes de prison que l'on renverse. Et j'étais visité, délivré par la puissance du nom de Jésus. J'étais pur, alléluia. J'étais dans la présence de Dieu. Ravi en extase, j'étais une nouvelle créature et j'ai entendu cette voix douce et aimante du berger, Jésus, qui m'a dit « Franck, tu es mon serviteur, je t'aime, je t'ai choisi et tu porteras mon évangile parmi les nations. » Et je disais « Alléluia. Alléluia. » Je ne sais pas combien de temps cette visitation a duré, mais j'étais ailleurs. Libre, pur, saint, changé. J'étais une nouvelle créature. Et très loin derrière, j'entendais un bruit, j'entendais une voix. Une voix qui disait, « Hé, jeune homme, ça va ? Hé, jeune homme, ça va ?» C'était la voix du pasteur qui commençait à s'inquiéter parce que les minutes passaient. Mais moi, j'étais au ciel. « Alléluia ! Alléluia ! Hé, jeune homme, ça va ? » Et tout à coup, je suis revenu sur la planète Terre. « Hé, jeune homme, tu vas bien ? Il est tard maintenant. » J'ai dit, « Pasteur, j'étais bien où j'étais ? J'étais dans la présence de Dieu. » Il me dit, « Hé, il faut rentrer chez toi. Il est tard. Ta mère va s'inquiéter. » Je dis, « Pasteur, vous n'y pensez pas. Chez moi, c'est la maison du diable. On ne peut pas y dormir 5 minutes. Il faut que tu rentres chez toi. » J'ai dit, « Mais il y a le diable chez moi. » Il me dit, « Écoute, celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est chez toi. » Alors je suis parti en courant, je suis arrivé à la maison, j'ai poussé la porte du cabinet de consultation, ma mère était dans une séance de divination avec une sorcière musulmane, elle faisait tourner des verres sur la table. Et moi j'arrive, je coupe la séance et je dis « Maman, Jésus est ressuscité et il vient de changer ma vie, alléluia !» Ma mère me regarde, elle me dit « Toi, t'as consommé de la drogue ?» Je dis « Non maman, c'est la puissance du Saint-Esprit !» La puissance du Saint-Esprit ? Mais elle me dit, t'es tombée dans une secte, tu es arrivée chez les fous ou quoi ? Et l'autre sorcière se lève, elle dit, Madame Alexandre, jamais nous n'avons vu ça. Jamais un voyant n'a pu confesser le nom de Jésus. Écoutez-moi, Madame Alexandre, votre fils, il est fou. Il est fou. Et elle se tourne vers moi et elle commence à murmurer des malédictions. Et là, je me tiens après le comptoir et mon esprit commence à vaciller. Et je dis, Jésus, ça fait 10 minutes que je crois en toi. Je suis en face d'une sorcière. Dépanne-moi, comment tu fais ? Et je me souviens du pasteur qui avait prié pour moi au nom de Jésus. Alors j'ai eu la conviction que si le pasteur avait du résultat au nom de Jésus, il me fallait aussi utiliser le nom de Jésus. Alors j'ai dit, « Madame, s'il vous plaît, au nom de Jésus, vous sortez de chez moi. » Et je pense, « Ça ne marche pas. » Et je repense au pasteur, il était bien plus déterminé. Et je lui dis, « Je vous ai dit, au nom de Jésus, vous sortez de là. » Et là, elle fait un pas en arrière. Je dis, « Ça marche. Tu sors maintenant, au nom de Jésus. » Et là, mes amis, bam, bam, elle est tombée par terre. Elle a commencé à se tordre comme un serpent. Sa langue sortait de sa bouche. Elle avait les cheveux hirsutes. Elle ne savait plus où elle habitait. Elle s'est relevée quelques minutes plus tard. Ma mère était dans tous ses états. Elle s'est relevée. Elle ne savait plus ni où était le nord, ni où était le sud. Elle a pris son verre, ses clics, ses claques. Elle est partie dans la rue en courant. Et je crois qu'elle court encore aujourd'hui. Alléluia ! Mes amis, j'avais mis une sorcière à la porte. Mais il en restait une autre à l'intérieur, c'était la mienne, c'était ma mère, elle était là. Ma mère était dans tous ses états. Je lui dis, « Maman, il faut rencontrer Jésus, tu dois tourner vers lui. Je ne vais pas voir ces gens, tu ne me les amènes pas ici. » Tut, tut, la sonnette. Elle me dit, « Tu les as invités. » Je dis, « Maman, t'inquiète pas, va faire du café, ça va bien se passer. » J'ouvre la porte, mes amis, il n'y avait pas un pasteur, il y en avait deux. Avec deux grosses Bibles. Des grosses Bibles. Je dis, « Bonjour, pasteur. » Il me dit, « Ça va depuis qu'on ne s'est vu ? » ?»« Ah oui, ça va très bien. » »« Et ta maman, tu l'as préparée psychologiquement ? » ?»« Oh, psychologiquement, tout va bien. Entrez, suivez-moi. » Je les ai invités dans la salle à manger. Ma mère était dans la cuisine. Je l'apercevais de loin. Elle était en train de faire le café. Et de loin, elle faisait, « Tu vois, attends quand je t'attrape tout à l'heure. Tu vois quand je t'attrape tout à l'heure. » Je dis au pasteur, « Tout va bien. Tout va bien. » Ma mère est arrivée avec le café. Et puis le pasteur, lui, il a ouvert la Bible. Deutéronome 18, verset 10. « Qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, de magicien, personne de ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Vous avez commis un péché d'abomination, vous êtes sous la malédiction. » Bam, chaos. Ma mère était chaos. Chaos debout. Hein. Et elle s'est mise à pleurer. Et ma mère a dit, « Mais pourquoi jamais personne ne m'a dit que ce que je faisais, c'était mal ?» Nous étions de tradition chrétienne, ma mère était la bonne amie du prêtre et il venait souvent à la maison faire tourner les tables avec elle. Mais là, pour une fois, nous étions face à la Bible. Parce que le vrai christianisme, ça n'est pas la religion, aucune religion, mais c'est ceux qui croient dans un christianisme fondé sur les saintes écritures, la Bible, un christianisme biblique. Ma mère s'est repentie de ses péchés. Elle avait transgressé la loi de Dieu. Elle s'est repentie de ses péchés et sa vie a changé. Elle a cassé la boule de cristal, jeté tous ses ustensiles dans le feu. Tous les livres ont été brûlés, tous les talismans, tous les gris-gris, tous les porte-bonheurs, tous les objets de protection, tous les bracelets sont passés par le feu. Et quand mon père est rentré le soir et qu'il a vu cette transformation, il a dit, « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Il dit, « Papa, assis-toi. » Et ma mère lui dit, « Écoute, j'ai quelque chose à t'apprendre. Ton fils vient de se convertir à l'Évangile. » « Quoi ? » Et il dit, « Attends, bouge pas. » Elle dit, « Moi aussi. » Alléluia. Il me dit, « C'est quoi cette affaire-là ? Je veux voir tout de suite ces pasteurs. Je veux aller les voir. C'est quand la prochaine réunion ? » ?»« C'est ce soir. Viens tout de suite. » Et mon père est arrivé. Il avait un ulcère qui virait au cancer. Il était malade. Alors, il a vu que le pasteur priait pour les malades. Il s'est mis dans la file. Le pasteur a prié pour lui. Il a senti un feu le visiter. De retour à la maison, il dit à ma mère, « Écoute, fais-moi du riz, mets-moi du piment, rougaille, tout ce que t'as dans l'armoire. Une bombe atomique dans le riz maintenant. » Et il a rempli de piment le riz. Et il mangeait le riz avec le piment. Plus aucune douleur. Il a décidé d'aller revoir le spécialiste. Quand le spécialiste a fait tous les examens nécessaires, il a dit à mon père, « Qui a rebouché ce trou à votre estomac ? Qui l'a fait ?» Et mon père a su qui c'était. Il a dit, « C'est Jésus. » Mon père s'est converti. Ma mère était délivrée de l'esprit divination. Mon père guéri de cet ulcère, délivré du tabac. Mon frère qui consommait de la drogue et de l'alcool, voyant le changement, est allé écouter l'évangile, libéré le jour même de la drogue, de l'alcool, du tabac. Ma petite sœur, libérée des démons, toute la famille, en quelques jours, a été sauvée et la vie de notre famille a changé. Alléluia. Dieu soit glorifié. Quelqu'un dira peut-être, « Moi, je n'ai pas pratiqué l'occultisme, mais nous l'avons lu. Le péché, c'est la transgression de la loi. Nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous transgressé la loi de Dieu. Et à cause de cela, nous sommes devant Dieu déclarés coupables. Nous avons volé, nous avons menti, nous avons commis adultère, nous n'avons pas mis Dieu à la première place, nous n'adorons pas Dieu comme il se doit, nous avons des idoles de bois, des idoles de pierre, nous avons des talismans, nous lisons l'astrologie, nous nous tournons vers les voyants, nous allons chez les guérisseurs. Dieu n'est pas le premier, Dieu n'est pas au centre. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, parce que Dieu n'est pas à la première place. Alors, nous sommes sous la puissance du malin, car la Bible dit « Celui qui pêche est du diable ». Et le monde gît sous la puissance du malin. Comment échapper ? Eh bien, en venant à Jésus. Alors, j'aimerais que l'on prie maintenant, afin de permettre à plusieurs de venir à Jésus, de permettre à plusieurs maintenant de le rencontrer, de l'accepter comme Sauveur et Seigneur. Courbons nos fronts dans la présence de Dieu. Seigneur, merci, parce que tu nous donnes de vaincre le diable, les antichrists, par la parole du témoignage. Et je te loue pour la parole du témoignage. Je te loue pour la prédication de l'Évangile. Je te loue, Seigneur, parce que par ton Évangile, tu libères, tu brises les chaînes, tu renvoies libres les opprimés. Les possédés sont délivrés, les malades sont guéris, les pécheurs sont purifiés. Merci pour la proclamation de l'Évangile. Seigneur, étends ta main, déverse ton esprit, visite les cœurs, visite les âmes, visite les corps. Saisis-nous aujourd'hui afin que plusieurs changent vraiment de vie. Pendant que nous sommes dans la prière, pendant que nous tenons dans le recueillement, j'aimerais lancer un appel. Qui aujourd'hui voudrait se tourner vers Jésus pour que sa vie change radicalement ? Je vous inviterai à lever votre main à votre place parce que j'aimerais prier pour vous. Qui voudrait venir à Jésus ? Levez maintenant votre main et je vais prier le Seigneur et il viendra dans votre vie et il la transformera. Alléluia ! Y a-t-il quelqu'un ? Oui, je vois votre main. Oui, je vois cette main qui se lève. Y a-t-il d'autres mains pour le Seigneur ? Oui, jeune homme, Dieu te bénisse. Oui. Dieu bénisse toutes ces mains qui se lèvent maintenant. Oui, madame. Oui, mademoiselle. Levez bien votre main. Oui, madame. C'est pour Jésus. C'est pour Jésus que vous levez votre main. C'est la main du Seigneur que vous saisissez. Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Et il veut libérer votre vie du joug du diable. Et à partir d'aujourd'hui, votre vie ne sera plus jamais la même parce que Jésus va l'illuminer avec l'évangile de sa grâce. On se lève ensemble. On se lève ensemble dans la présence de Dieu. Et je demande à tous ceux qui veulent changer de vie, eh bien maintenant de prendre leur destinée en main. Venez me retrouver devant l'estrade et je vais prier avec vous dans quelques instants.